Je suis primatologue et je travaille dans la conservation de la nature. Me voici à 25 ans, quand j'ai commencé ma carrière aux Républiques démocratiques du Congo. Je menais une mission de 3 ans pour étudier et faire de la recherche sur une communauté de chimpanzés dans le parc national de Virunga. C'était 1987. Les chimpanzés étaient l'objectif de mes études, mais en même temps, ils étaient mon contact social principal. Et donc, avec le temps, ils sont devenus progressivement très importants pour moi. Je passais toute la journée dans la forêt avec eux et j'étais jamais menacée, même s'ils ont une réputation d'être dangereux. Et progressivement, je commençais à connaître chaque individu, la personnalité de chaque individu. Et je les reconnaissais par leurs gestes, leurs amitiés et leur position dans le groupe. En tant que scientifique, j'ai appris et on apprend à être impartial, objectif et à éviter à tout prix de devenir trop lié émotionnellement avec le sujet de ces recherches. Mais la réalité est que je suis et nous sommes tous des primates sociaux. Donc nous avons une compréhension naturelle pour eux et une empathie. Ce qui veut dire que nous avons tous la tendance d'interpréter ce qu'on observe. Mais parfois, pour éviter de anthropomorphiser et de perdre l'objectivité, on évite de reconnaître ce qui est évident. Cependant, il y a eu une exception, avec un chimpanzé que j'avais appelé Ozzy. Je marchais dans la forêt tous les jours, je les connaissais tous, mais Ozzy était un mâle adolescent qui avait été blessé avant mon arrivée dans la forêt par un piège de braconnier. Et sa main, comme vous voyez, malgré la qualité un peu mauvaise de la photo, sa main ne fonctionnait plus, sa main gauche. Elle était gonflée, sans poils et sans aucune dextérité. Il pouvait l'utiliser comme un crochet pour tirer des branches vers lui et il pouvait aussi se déplacer normalement dans la forêt. Mais il était un peu mis de côté par les autres chimpanzés. Il était rarement dépouillé, ce qui, pour un chimpanzé, est un signe de statut social inférieur. Lors d'un après-midi, un de ces après-midi ensoleillés, tous les chimpanzés se reposaient pour leur sieste. Et moi, j'étais assise sur le sol avec mon dos contre un arbre et ils étaient tous éparpillés autour de moi et je les observais, mais Ozzy était tout près, dans un arbre, sur une branche, peut-être à 1 mètre du sol. Et il se reposait avec les yeux fermés. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il me regardait. Et il balançait son bon bras. Et il était très décontracté, presque trop cool. Presque comme ce jeune garçon qui s'étire au cinéma pour mettre son bras autour de la fille à côté de lui. Et à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il me tendait la main, comme s'il m'invitait à le toucher. Il n'avait pas peur de moi, il était curieux et il me tendait la main. Si j'avais bougé légèrement mon corps et tendu mon bras, j'aurais pu lui toucher les doigts. Mon premier réflexe, c'était un geste qui me semblait amical. Mon premier réflexe était de répondre à sa geste. J'étais touchée, j'étais tentée, j'étais curieuse, mais je n'étais pas sûre. Est-ce que je devais traverser ce pont avec cette autre espèce? Est-ce que je devais aller à la rencontre de cet être qui restait quelque part insondable pour moi, même après des années de recherche et d'observation? Il était en même temps un familier, mais il était aussi un étranger que je ne pourrais jamais véritablement connaître. Et j'étais là, assise, avec mon dos contre l'arbre, et je ne savais pas quoi faire. Et c'est cette confusion, c'est ce désarroi que Ozzy a provoqué en moi qui m'a soulevé la question que je vous pose ici. Quelle est la bonne relation entre l'humain et l'autre? Quel devrait être le pont idéal entre l'humain et l'animal. Sans langage commun, c'est impossible pour nous de nous expliquer clairement et sans confusion aux autres animaux, comme c'est impossible pour eux de s'exprimer vers nous. Je ne veux pas dire qu'avec un langage commun, il n'y a pas de possibilité de confusion ou de malentendu. Mais sans langage verbal, c'est tellement facile de mettre en question ce qu'on observe ou de mal interpréter. Donc, nous utilisons la science comme la langue qui nous permet de comprendre et d'expliquer ce qu'on observe. Et plus la discipline est stricte, moins on risque de perdre l'objectivité. Et ceci est important, parce qu'on a la tendance d'expliquer et d'interpréter ce qu'on observe. La peur d'anthropomorphisme et les efforts à éviter toute interprétation subjective sont valables, mais elles servent aussi comme un bandeau qui nous couvre les yeux et qui nous empêche de voir, ce qui est souvent extrêmement commode. Considérez ceci, si nous ne pouvons pas prouver qu'un animal souffre, on peut ignorer sa souffrance. Si nous ne pouvons pas démontrer clairement le fonctionnement de son cerveau sophistiqué, alors on peut nier qu'il a un fonctionnement sophistiqué. Et on peut tout simplement conclure qu'il est entraîné par ses instincts, sans conscience de soi, incapable de réfléchir sur sa vie, ses craintes, ses désirs, ses espoirs. Tout ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas le voir. Un système de croyance est en place sur base de la philosophie et la religion qui fait que l'homme se place et se croit au sommet d'une pyramide avec supériorité et domination sur toutes les autres espèces. Et une preuve, entre autres, de cela est que la recherche dans l'intelligence animale cherche et relève surtout combien l'humain est supérieur aux autres animaux. Nous considérons que nos aptitudes et nos capacités supérieures sont dues à notre cerveau complexe et sophistiqué, et que cela nous dote d'un potentiel unique en intelligence, empathie ou altruisme. Mais la réalité est que ces aptitudes ne sont ni uniques à l'humain, ni toujours supérieures. Je vous donne un exemple. Le cerveau de l'orque est grand et comparable structurellement au cerveau humain, à part une zone, la zone qui nous permet de sentir des émotions, de contrôler les émotions et de développer des liens sociaux. Cette zone contient le lobe limbique, le cortex insulaire et l'opercule. Cette zone dans l'orque est proportionnellement plus grande et plus complexe que chez l'homme. Alors, la seule conclusion logique d'une telle observation et une logique que nous appliquons souvent pour expliquer notre supériorité humaine aux autres animaux, et qu'une telle complexité indiquerait aussi plus de capacités dans cette créature. Cette partie du cerveau de l'orque est plus complexe, donc c'est fort probable que ses liens émotionnels, sa vie émotionnelle, sont plus profondes, plus complexes et quelque part insondables pour nous, les humains, qui n'ont pas ces capacités. Mais on continue à méconnaître les implications de ces études et à chercher surtout des recherches qui ne mettent pas en question notre supériorité. Nier la capacité de réflexion sophistiquée aux animaux nous a bien servi et continue à nous servir. Cela nous a permis d'exploiter et même exterminer des autres espèces sans considération sur l'impact sur leur vie et sans trop de remords. On parle de l'humain et l'animal, pas de l'humain en tant qu'un animal. L'animal est souvent utilisé comme un mot péjoratif. Historiquement et dans la vie contemporaine, on utilise le mot animal comme une insulte. Se comporter comme un animal est indigne de nous, sauvage, incontrôlé, sans restreinte, entraîné par ses instincts et sans aucune moralité, comme une bête, un cochon ou un rat ou un cancrelat. Pensez combien de fois vous avez entendu la phrase « Ouf, chérie, vous mangez comme un cochon ». Mais ce n'est pas une petite phrase en l'air, et ça peut aller très loin. Et dans le langage raciste et génocidaire, les comparaisons aux animaux sont très courantes. Alors, nous avons utilisé aussi les mêmes théories de supériorité humaine pour exploiter et faire du mal aux autres humains, en les comparant aux animaux. Nous avons justifié, par leur manque de moralité ou de capacité cérébrale sophistiquée, l'exploitation et l'esclavage des autres humains par cette comparaison et cette théorie de supériorité. Et cela nous a permis de discriminer sur base de race, sur base de religion, sur base de sexualité ou sur base de genre. C'est très important de se rappeler que l'exploitation des humains a été faite de la même façon que nous avons exploité les animaux. Alors, quelle est la bonne relation avec l'animal? Maintenant, je ne voudrais pas remplacer une illusion avec une autre et que vous prenez l'illusion et le monde utopique de tous les animaux avec les mêmes capacités. Mais je voudrais surtout qu'on soit conscient de notre manque d'humilité et manque d'intégrité et qu'on le reconnaît comme illusoire. Prenez par exemple un animal. Mettez-vous devant un chien, par exemple. Nous allons tous nous considérer supérieurs, même si ce même chien a des capacités en odorat ou dans la détection de certaines maladies bien au-delà des nôtres. Alors, supérieur en quoi? Il se peut que dans quelques décennies, nous allons regarder nos attitudes et notre comportement vis-à-vis des animaux avec le même gêne et avec honte, et on va le trouver grotesque, comme aujourd'hui on regarde la discrimination sur des autres populations humaines, l'esclavage et le génocide. Alors, quelle est la bonne relation avec des animaux? Et je vais revenir à Ozzy, qui me tendait le bras dans la forêt. Tout m'indiquait un geste amical. Peut-être même reconnaissant mon propre statut inférieur d'étranger comme un tout petit peu comparable au sien. Peut-être on était tous les deux un autre vis-à-vis de nous deux, aussi bien qu'avec tous les autres chimpanzés dans le groupe. Ça m'était très très difficile de faire le choix. Quelle tentation de traverser la frontière et d'aller à la rencontre d'une autre espèce, un animal complètement sauvage, et de lui montrer et rendre la complicité et l'amitié qui semblaient me tendre. Mais une chose je savais, toucher un animal sauvage, et surtout un grand singe qui est si vulnérable face aux humains, c'est rarement bien pour l'animal. Donc, je n'ai pas répondu à son geste. Je le regardais, mais j'ai gardé mes mains repliées sur mes genoux. Et après un petit moment, Ozzy a retiré sa main et ne m'a plus regardée. J'avais fait le choix de ne pas traverser le pont, parce que quelque part, je sentais que ça aurait été pour moi et pas pour lui. Je voulais qu'il sache qu'il n'avait rien à craindre de moi. Mais la réalité désagréable est que l'homme représente tout ce qui est dangereux, menaçant et essentiellement immoral dans le monde des animaux. Pour Ozzy, sa future et son bien-être dépendraient qui garde un peu de peur de l'homme. Je ne l'avais pas su et je n'aurais jamais pu savoir les conséquences. Mais depuis lors, la guerre au Congo a mené à des massacres d'humains et d'animaux par les militaires, les braconniers et les rebelles. Pour Ozzy, sa future était avec des chimpanzés et ça aurait été dangereux pour lui de mettre trop de confiance dans un être humain. Mais moi, je reste avec la question « et si ?» et je ne peux pas prétendre que je n'avais pas été tentée ni que je ne garde pas quelques petits regrets pour ma décision. Après tant d'années avec des animaux sauvages et tant d'années à chercher le positionnement scientifique idéal, je commence à comprendre les limites de mes propres connaissances et de tout ce qui reste insondable et essentiellement différent. Et je reviens sur la question que je vous ai posée, quel est le pont idéal entre l'humain et l'animal ? Et je me demande, est-ce qu'on devrait se concentrer autant sur une comparaison des différences ? Ou bien est-ce qu'on devrait regarder ces différences et la valeur, la beauté et l'importance de ces différences ? Moi, je pense que la terra incognita des autres animaux est définie par notre ignorance et ce bandeau qu'on se met délibérément devant nos yeux pour ne pas voir. Peut-être le pont idéal entre l'humain et l'autre devrait être une célébration de ces différences vers une coexistence respectueuse. Merci.